Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 11e de Quoique, la radio qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 février 2004 pour une émission enregistrée dans les conditions du direct que vous pouvez télécharger comme bon vous semble via le site internet www.quoique.org. Mais si vous nous écoutez, vous le savez déjà. Messieurs, dames, bonjour.
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 Tout va bien depuis la dernière fois?
Tout, ben, ouais, hein, tout roule.
C'était il y a un petit moment déjà.
Ah oui, alors vous n'êtes pas au courant, mais il faudrait saluer nos auditeurs québécois éventuels.
Ah bon?
Oui, parce qu'il y a plein de flyers qui sont arrivés au Québec et il n'y en a plus un sur la pile qui a été déposée, donc on peut penser qu'on va augmenter notre auditoire.
Bon, ben, calibou alors.
Eh ben, merci à tous nos auditeurs québécois.
Et surtout les québécoises.
Aussi. Et surtout aussi.
Donc, c'est super sexe, l'accent québécois.
C'est vrai. C'est une question de goût. Donc alors aujourd'hui, on va avoir une émission très intéressante puisque le thème va être le vin. Il n'y a pas de ah si quand même. Alors aujourd'hui avec nous, après avoir arrêté plein de choses tout le temps l'année dernière, il va se mettre à commencer des choses et aujourd'hui il va commencer par...
Je vais commencer à apprécier le vin.
Le vin, donc Cray. Voilà. Et on l'applaudit bien fort.
Merci.
Donc Cray est dans le thème. Après, il y a Flo, qui elle n'est pas vraiment dans le thème, parce qu'elle va nous parler d'un film dans ce pays-là, c'est ça? De Lydia Bobrova.
Oui.
Hein,
ouais,
ça parle de vodka.
Oui, voilà, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur le vin, en fait.
Bon, bah écoute, tant pis, hein, c'est bien aussi la vodka. Alors après, il va y avoir Béa. Et elle va nous parler.
Ben, pas du thème non plus.
Pas du thème non plus. Il
n'y
a rien à la télé sur le vin.
Et François, pas sur le vin, non. Moi, j'ai regardé la télé pendant un mois, c'est tout.
Ah ben, c'est en buvant du vin.
Voilà, éventuellement.
Ah ben voilà.
On peut imaginer que.
Faut faire passer. Ouais.
Ça colle au thème. Et après, on va finir par Numa qui lui.
Il va parler du thème de vin chez Charles Baudelaire.
C'est pas vrai.
Si, je suis dans le thème.
Mais c'est très bien. Ouais. Et tu vas nous faire un petit poème.
Oui, j'en ai.
Ah.
Il est. Enfin bon, vous verrez bien.
Bah, on entendra.
Oui, surtout.
D'accord. Donc aujourd'hui encore, Valérie et Darty sont pas avec nous.
Oh.
Mais aussi, ils ont une très bonne nouvelle à nous annoncer puisqu'ils ont donné naissance à une petite Adèle. Enfin, il y a quelques semaines.
Valérie,
bravo.
Non, bienvenue à Adèle.
Bah, oui. Bravo Valérie.
Bravo Valérie.
Et bon courage.
Ah oui,
surtout bon courage.
Et puis aussi aujourd'hui une première, puisque c'est une émission avec du public.
Ouais.
Allez, le public.
Le public,
bonjour le public.
Il a la bouche pleine, le public.
Ah ben, le public mange. Alors surtout le public peut intervenir, faire du bruit, il n'y a aucun souci.
Ouais, on s'en fout, on l'entend pas, il n'y a pas de micro d'ambiance.
Voilà, vive le public. Puis en plus, le public n'entend pas les petites musiques qu'on passe non plus. On aurait pu lui donner un casque au public. Pour le prochain public.
Oui, pour le prochain public, alors.
Voilà.
J'ai un casque en rab.
Donc, et bon, on va pouvoir commencer. Hein, alors, Cray, à toi, explique-nous.
C'est parti, oui, voilà. Comment commencer à apprécier le vin? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que le vin exerce pour nous autres, particulièrement nous les Français, une sorte de fascination. Qui peut prendre à peu près deux formes. D'abord, soit on est déjà connaisseur et ou appréciateur des vins et de la qualité, de la variété des vins qui existent. Soit on a cette espèce de respect pour le vin, justement quand on connaît pas, on n'est pas connaisseur, mais et le vin quelque part, ça dégage quelque chose un peu recouvert d'un voile de mysticisme. Et on aimerait bien avoir les clés pour connaître davantage le vin. Donc moi, je suis pas un grand expert en vin, loin de là, et je serais plutôt mal placé pour donner des cours d'appréciation du vin. Par contre, je pense que j'ai quelques conseils de bon sens à donner et c'est ce que je vais m'apprêter à faire.
Mais ne trive pas.
Ouais, il faut éviter le 6 étoiles, c'est pas bon.
On va y venir. Donc voilà, donc le but de ma chronique, c'est de donner une série de conseils pour ceux qui comptent consacrer un peu de leur temps pour mieux connaître le vin.
Ah bah oui.
Le premier conseil que je vais donner, c'est... Il faut pas croire que c'est en achetant les bouteilles les plus chères qu'on devient un expert en vin. C'est pas le fait d'acheter du vin super cher qui fait de vous un expert.
Vaut mieux le en boire plutôt.
Vaut mieux le boire. Hein.
Voilà, alors effectivement, acheter du vin très cher en boire, c'est toujours forcément très agréable, ça c'est une évidence. Mais c'est pas pour autant que ça va vous faire progresser dans votre connaissance du vin, c'est pas comme ça que vous allez devenir quelqu'un qui peut briller dans les salons parce que vous avez bu du haut brillant. C'est pas ça qui va vous faire de vous quelqu'un qui s'y connaît particulièrement. C'est pas pour autant que je vante le vin en brique. Hein. Hein, ou le 6 étoiles.
Aussi hein.
Bah, bien sûr, le vin existe en brique.
C'est de plus en plus utilisé.
Mais je crois qu'ils vendaient de moins en moins de picrates, justement.
Mais je pensais plutôt aux briques tétrabriques, là, tu vois, de petit format d'un litre.
Comme le lait.
Voilà.
Donc le vin...
Celui-là, non, mais bon. Donc comme je le disais, la découverte du vin ne nécessite pas de boire uniquement des grands crus classés. Soyez raisonnable et puis... Prenez le temps de découvrir des vins pas forcément renommés, à des prix tout à fait abordables. Et puis après tout, songez que si vous vous habituez trop aux vins haut de gamme, qui sont évidemment au-dessus du lot, vous ne pourrez plus boire de vins moins fins, puisque finalement vous seriez habitué à trop de luxe. Et en plus, ça vous reviendrait excessivement cher, alors que finalement... Il y a de très bons vins entre 5 et 10 euros. Il n'y a pas besoin de payer 30 euros un vin pour avoir quelque chose d'agréable à table. Donc voilà pour mon premier conseil. Mon second conseil, c'est de ne pas être sectaire dans le vin. Souvent, il y a énormément de gens qui sont très sectaires, c'est-à-dire soit dans un sens, soit dans l'autre. D'ailleurs, soit de façon généraliste, c'est-à-dire moi, je n'aime que le Bordeaux. Alors, bon, moi, c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de vins qui sont intéressants. Et souvent, les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment les autres vins. Dans l'autre sens, c'est les gens qui n'aiment pas.
Je te coupe, mais le Bordeaux, c'est vachement bien, c'est pour la pêche.
Ah bon?
C'est-à-dire?
Bah, c'est plus facile pour mettre sa canne à pêche dans l'eau. Bordeaux.
Le Bordeaux, d'accord. Merci.
D'accord.
Mais de rien.
Merci, Nimon. Donc oui, alors
c'est l'ambiance.
Alors il y en a qui n'aiment que et puis il y en a qui n'aiment pas. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas le Saint-Émilion. Typiquement, ils n'aiment pas ce vin-là. Bon, bah moi c'est un peu quelque chose. C'est pareil dans une appellation. Faut faire attention. Vous avez peut-être été bloqué.
Oui, mais si on leur fait goûter un Saint-Émilion les yeux bandés, est-ce qu'ils continueront de pas aimer?
Partant du principe que les gens connaissent. Je pense qu'il faut aussi découvrir peut-être plusieurs vins dans une appellation, parce que après tout, c'est peut-être un vin qui vous a rebuté.
Donc, et surtout plusieurs années.
Oui, finalement, il y a les millésimes qui entrent en jeu également.
Parce que c'est vrai qu'un Saint-Émilion 2004, bof.
Non, c'est vrai. C'est
un Saint-Émilion 76, c'est quand même vachement meilleur.
Donc, ne soyez pas sectaire. Et n'oubliez pas que une des principales richesses du vin, c'est sa variété.
Il fait des travaux pratiques.
Voilà, on a droit à des travaux pratiques en direct.
On va vérifier s'il y a des gens qui aiment pas le Saint-Émilion.
Et n'oubliez pas donc qu'il n'y a pas que le Bordeaux et le Bourgogne et que
il y a
des tas d'autres vins qui existent. Dans toute la France et puis même au-delà de la France, faut pas être trop chauvin. Faut commencer à reconnaître qu'il y a d'excellents vins qui se font aussi à l'étranger.
Des vins espagnols,
portugais, des vins maghrébins, d'Amérique du Sud,
aussi.
Même en Californie,
même au Canada, ils font des vins.
En Californie, ils font du bon vin quand ils font
du vin français.
Non, justement quand ils font du californien.
Ah ouais.
Parce que quand ils essayent de faire du Bordeaux, c'est nul.
Ouais.
Donc moi je suis vraiment persuadé que plus on diversifie plus on élargit l'éventail des vins qu'on connaît, à mon avis, plus on va en profiter, parce que le but du jeu c'est quand même d'en profiter. Et c'est là où je vais en venir dans mon troisième conseil, c'est que finalement il faut se faire plaisir. Là, ce qui est très important dans le vin, c'est de se faire, c'est un plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, c'est pas la peine. Donc, méfiez-vous notamment des règles de consommation du vin. Il y a beaucoup de gens qui vont dire le vin, ça se boit comme ça se boit comme ci, avec telle chose, avec ceci, avec cela, à telle température, exactement. Je crois que méfiez-vous quand même, c'est pas des règles. Je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme des conseils, plutôt que comme des règles. Souvent c'est le bon sens qui prime. Effectivement, un vin ne donne rien s'il est trop chaud ou s'il est trop froid, mais après tout...
Ouais, parce que là, de ce côté-là, je voulais dire servir le vin à température ambiante, comme c'est marqué sur une bouteille. Un jour, on nous l'a servi à 24 degrés, température ambiante, c'était pas génial.
Oui, alors ça, justement, ça me rappelle une précision, j'y avais pas pensé. Mais...
Chambré, ça veut pas dire voilà. Température ambiante.
Voilà, parce qu'en fait, chambré, ça, c'est une expression qui nous vient d'une époque où les chambrés, ça voulait dire effectivement à température ambiante, dans la mesure où la température ambiante était à 16-17. Aujourd'hui, la température ambiante oscille entre 19 et 21, donc. Dire chambré, ça veut pas dire mettre à température ambiante. Ça veut dire.
À Oslo.
Voilà, à Oslo. Mais ça veut dire mettre à 16, 17, même moins, légèrement moins en fait. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut souvent laisser parler le bon sens, qu'un vin.
Nous te laissons
après tout,
parler.
Il n'y a pas de règle. Vous pouvez l'apprécier un peu froid, un peu chaud. Ça, c'est vous qui voyez, après tout.
Oui, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Ça dépend effectivement si on est en hiver ou en été. Ce que...
Exactement.
Ah, ouais.
Exactement. Il n'y a pas de règles directes. Et puis, c'est pareil pour la consommation avec tel ou tel plat. Après tout, si vous, ça vous fait plaisir de manger un blanc sec avec du fromage, il ne faut pas vous priver.
Exactement.
Bon, s'il y en a qui aiment ça, c'est votre problème.
Et en plus, c'est souvent des modes. Parce que ça change quand on regarde au cours des années,
oui,
ça
vrai.
Change.
Non, voilà, c'est vrai que c'est assez snob de suivre strictement les règles. C'est snob.
Oui. Oui, bah voilà, mais finalement c'est ça que je vais y venir. Hein. C'est exactement ça. Il faut éviter le snobisme.
Mais les règles parfois pour les gens qui connaissent pas trop, ça aide. C'est pour aider.
C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre ça comme un conseil.
Ouais,
c'est pas une sacro-sainte règle. Souvent, c'est des conseils de bon sens. Il faut les suivre, les tester, et puis peut-être faire après les améliorer de la façon de ce qu'on préfère nous, sachant que ça se partage. Donc il y a aussi.
Tout à fait.
Voilà. Donc mon conseil suivant, quatrième conseil, c'est d'éviter au cours d'un même repas ou une soirée la surmultiplication des vins. Alors, vous n'allez pas paraître un expert en vin parce que sur une même table, vous allez présenter une dizaine de vins différents. En
et
plus,
10 bouteilles du même vin.
Ah oui, non, 10 bouteilles du même vin, c'est possible. Enfin, il n'y a pas de règle, c'est des conseils, hein, encore une fois.
De toute façon, au bout d'un certain temps, les gens ne remarquent plus ce que tu mets sur la table.
Et oui.
Voilà, vous ne serez pas un expert en vin parce que vous sortez toute votre artillerie lors d'un même repas. Donc, moi, je pense que, personnellement, mais bon, je m'étais pas relu.
Des connotations sur l'artillerie,
ouais.
Excusez-nous.
Un expert en vin mérite bourrer, certainement, ouais.
Bon. Donc, moi, je pense que, au cours d'un même repas, deux ou trois vins différents me semblent largement suffisants, c'est pas la peine. D'autant plus que, je pense que, si on veut vraiment apprécier un vin, il ne faut pas qu'ils soient trop mélangés ou qu'ils viennent après trop de vins différents parce que finalement vous ne pourrez pas vraiment l'apprécier. Vaut mieux continuer d'apprécier un ou deux mêmes vins plutôt que passer à 4 ou 5 vins à table. C'est complètement...
Comme conseil, on peut donner à peu près l'idée de mettre un vin par plat.
Par plat, ouais.
Oui. Bah c'est les conseils qui sont habituellement donnés.
C'est pas complètement débile ça.
Non, mais exactement.
Mais 3 vins entrée.
4 s'il y a du poisson. Plus un à l'apéro.
Et puis à la fin du repas, tu peux refiler les tétrabriques parce que de toute façon, personne ne verra la différence.
Bon. Conseil suivant, le cinquième.
Ne te laisse pas perturber.
Alors là, c'est un petit truc technique. Si vous voulez vraiment essayer de progresser dans votre connaissance du vin, dans votre dégustation du vin, il y a un petit truc tout bête. C'est qu'il faut vraiment essayer de faire travailler sa mémoire. C'est-à-dire que quand vous goûtez un vin, essayez de mémoriser le goût qu'a ce vin-là. Parce que souvent, les gens goûtent le vin, l'aiment bien, le trouvent bon, mais ne font pas l'effort de mémoriser le goût du vin. Parce que si vous voulez pouvoir arriver à comparer des vins, si vous voulez essayer de retrouver un vin, la première étape à faire, c'est évidemment d'essayer de le mémoriser lorsque vous êtes en train de le déguster. Le plaisir du vin, c'est aussi un plaisir intellectuel. Il n'y a pas que le plaisir gustatif ou le plaisir convivial, il y a aussi un certain plaisir intellectuel finalement à retrouver quelque chose qu'on connaît déjà Et si vous faites attention à mémoriser le goût du vin, ultérieurement, vous allez retrouver certains goûts dans d'autres vins. Et en plus, ça va vous faire progresser et vous allez y prendre du plaisir.
Le plaisir du vin, moi je me souviens quand je jouais au rugby, quand j'avais le maillot vin, ça, j'étais pas content. Hein.
Bon.
J'étais remplaçant.
Merci.
Bon. De rien.
Conseil suivant. Évidemment, comme je disais au début en préambule, moi je ne suis pas expert, donc si vous voulez vraiment aller en librairie, si pour avoir plus de documentation, il y a d'excellents ouvrages qui existent. En plus, ils sont assez nombreux, donc trouvez-en un qui vous plaît. Tout le monde, après tout, ne recherche pas le même genre d'informations, donc il y a les aspects culturels, enfin tout ce qui peut être la connaissance de l'art du vin, la fabrication du vin. Il y a plein d'aspects dans le vin le vin, c'est très très riche, hein, finalement, culturellement. Et tout le monde n'en cherche pas effectivement le même genre d'informations. Donc, il y a le choix. Trouvez-en un qui vous plaît. Par contre, il y a un aspect, moi, qui me semble pas forcément utile. C'est que l'ouvrage soit complètement exhaustif sur le recensement des vins. Il n'y a pas besoin d'acheter un ouvrage qui peut vous parler de 20 000 vins différents. De toute façon, vous en goûterez pas 20 000 différents. Donc je pense que ce qui serait intéressant que vous apporte un ouvrage, c'est plein de conseils pour devenir meilleur en dégustation. Par contre, c'est à vous moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de découvrir soi-même des vins plutôt que d'aller les chercher dans un dictionnaire. Voilà. Enfin bon, vous en faites ce que vous voulez. Dernier conseil. C'est pas vraiment un conseil, c'est juste que j'avais envie de citer un ou deux vins que j'aime bien, donc je vais pas en faire une longue liste, j'en citerai que deux. Le premier, presque ici presque tout le monde le connaît, c'est chaque année on va ensemble avec certaines personnes ici dans les Côtes de Bourg, et je voulais faire un petit coucou à un des viticulteurs qui nous reçoit chaleureusement, et qui est le château Macaille, et qui fait, ma foi, un Côte de Bourg que j'apprécie beaucoup. Le second vin, par contre, c'est un Saint-Émilion, c'est le château Carteau, qui est vraiment une petite merveille pour son prix. Et donc je répète, hein, château Macaille à Côte de Bourg et château Carteau de Saint-Émilion. En conclusion, donc ou plutôt en résumé, avec le vin, donc soulignait tout à l'heure Béa, ne soyez ni snob ni sectaire, mais soyez plutôt curieux, éclectique. Ne suivez pas de sacro-saintes règles, mais écoutez les conseils, testez, découvrez vos préférences, et puis suivez vos goûts, faites-vous plaisir. Faites attention à garder les papilles attentives, faites un petit effort de mémorisation. Voilà, à la vôtre.
Eh ben merci beaucoup. C'était très intéressant. Tu veux rajouter quelque chose, Dubin, peut-être?
Eh bien non.
Non, c'était très intéressant aussi.
Merci.
Brillante intervention.
Bravo. Parce que je t'ai vu te pencher sur ton micro, alors je me suis dit, il veut dire quelque
moi
chose.
Moi aussi j'ai cru, et en fait non.
Tu l'as perdu en route.
Oui, je sais pas.
D'accord. Maintenant nous allons passer à Flo, qui va nous parler donc de vodka.
Oui. Oui, la vodka.
Avec des pommes de terre
Oui, je suis désolée, parce que le sujet sur le vin, j'ai cherché, je me suis torturé les ménages.
T'as cherché en vain.
Oui, j'ai cherché en vain, et pas dans le bon sens, ouais. Et j'ai rien trouvé. On m'a dit qu'il y avait quelques téléfilms, mais comme tout le monde le sait, on n'a pas la télé, alors. Et puis, de toute façon, il a fallu que je trouve les téléfilms en question. Donc, j'ai pensé à un truc qui se boit. Alors, il y avait un Saint-Jean d'hiver. Mais d'abord, c'est un peu du picon bière.
Du picon.
Ben voilà, c'est du picon. Alors, et puis tout le monde connaît un Saint-Jean d'hiver.
Enfin, il y avait les vieux de la vieille.
Oui aussi. Oui, tiens, c'est pas bête. Ouais, mais bon, on m'a demandé de faire un peu dans l'actuel, en fait, de temps en temps au cinéma.
Dans la soupe aux choux aussi.
Ouais. Mais sinon, il y avait une adaptation de Steinbeck, Les raisins de la colère, qui a été faite au cinéma.
Super film. Je le place pas.
Ouais, mais c'est pas drôle, Les raisins de la colère.
Non, c'est quand même carrément chiant.
Ouais, voilà.
Ça parle beaucoup de vin, Les raisins de la colère.
Ça parle beaucoup de colère.
Mais on les voit jamais, les raisins. Ouais, t'attends pendant 3 heures et tu les vois pas, les raisins.
Hein. Non, je vois des gens qui sont malheureux. Hein. Et c'est triste. Alors moi, j'ai pris un truc à sujet avec des gens qui sont malheureux et tristes. Si on regarde profondément et en regardant pas avec le sourire, et finalement, c'est gay quand même. Et voilà. Et c'est des gens qui sont complètement imbibés de vodka. Donc, pour trouver un endroit où on imbibe les gens de vodka, où on les conserve dans la vodka.
Bien les gens qui s'intéressent à moi.
Non, c'est pas toi.
Mais t'es pas russe.
Oui, voilà. Béa, elle a mis le doigt dessus. Pour trouver des gens qui sont pleins de vodka et tout, il faut
aller
à l'Est.
C'est pas dur. Hein.
Très très fort à l'Est. Et là, je vais à l'Est, super loin. Je vais jusqu'en Sibérie.
Ah, où ça caille là. Bah, ouais, d'abord, ils s'emmerdent.
Ah, mais... Attends, on se réchauffe. Est-ce qu'on a.
Et hein. Ça, c'était à la liaison avec le château Macaille.
Non, c'est. Bravo. Ça, tu m'as coupé.
C'est un festival.
Je suis en forme en fait. Hein.
Ouais. Oui, donc alors je vous emmène en Russie pour un film qui s'appelle Dans ce pays-là de Lydia Bobrova. Et alors pour les gens que
c'est
ça
pas une marque de vodka ça d'ailleurs.
Non, c'est des serviettes.
Non, c'est loup. Il y a des Dounia et des machins chosnia, mais il y a pas Vania,
de. C'est pas grave.
Ça. Voilà.
C'est pas bon, grave, enfin, bref, on continue. Quoi.
Donc pour les gens qui auraient peur d'aller voir un film russe en russe avec des sous-titrages en français, ça dure que 85 minutes. Donc c'est abordable, c'est supportable.
Enfin, pour un film russe, c'est long quand même déjà.
Wow, non, non, joli, on peut trouver russe. Beaucoup plus long. Hein.
Oui.
Voilà. Bon, alors,
il y en a des très jolis. Hein.
Des russes aussi, oui. Bon alors, mon grand drame quand même, c'est que malgré tout, j'ai trouvé le film, mais j'ai pas. Enfin, j'ai trouvé le film, le thème. Vodka, mais
t'as pas vu le film.
Mais si, j'ai vu le film. Non. J'ai vu le film, mais il y a très longtemps. C'était avant l'an 2000.
Ah bah c'est oui, c'est d'actualité effectivement.
Oui, si on demande dans quel salle il passe, tout ça, on peut régler la question tout de suite.
Ben voilà, on peut régler la question tout de suite. Et si vous cherchez à le trouver sur internet, eh ben quelle dalle.
Donc bah raconte-nous parce que je suis sûr que
oui, voilà. Comment hein on pourra pas le voir.
Donc on va faire justice à ce film que les gens ont un peu oublié. Alors voilà. Alors dans ce pays-là, là, c'est un film très très dense. Alors le héros, il n'y a pas de héros véritable. Enfin, machin. On suit pas l'histoire de machin ou autre. On suit l'histoire d'un village entier dans le nord de la Sibérie. Et ça se passe un peu après la chute du mur. Et alors c'est marrant parce que c'est le monde est censé.
Du mur en Sibérie.
Ouais non, pas du mur en Sibérie, du mur en Allemagne.
Ah d'accord. Voilà, ouais. Non mais sois précise. Je suis un peu con. Je comprends pas bien.
Ça fait longtemps que Staline était mort d'ailleurs. Aussi, hein.
Bah oui, ça aurait pu être celui-là.
Ouais, mais
on
il tient toujours
courant.
Celui-là. Enfin, pas partout, mais il tient. Et donc, alors, c'est marrant parce que on a beau être le monde a quand même vachement changé dans ce coin-là, mais on sent quand même une sacrément lourde influence soviétique. Et alors, leur grand problème, je vous ai dit, c'était la vodka. Et alors, le maire aime beaucoup ses concitoyens. Enfin, il se sent très très impliqué quant à leur santé. Et donc, au lieu il a métamorphosé. En fait, il utilise des anciens outils. Avant, il y avait l'espèce de bâtiment communautaire, le centre communautaire. Ils affichaient les deux meilleurs employés du mois, ceux qui avaient, enfin, les deux meilleurs ouvriers, ceux qui avaient le mieux travaillé pour la communauté. Et bien là, il a décidé de mettre les deux meilleurs alcooliques, enfin les deux pires alcooliques du mois.
Alors, et comment il jaugeait ça, lui?
Ah ben facile à voir, quand tu vois le film, tu peux dire celui-là c'est le meilleur alcoolique du mois, il ne tient pas plus d'une demi-journée debout. Enfin bref quoi. Okay. Voilà. Oui non, c'est il y a pas à tordre, hein. Tu ne contestes pas le jugement. Et alors tout de suite, voilà, les deux personnes concernées se mettent à hurler. Ouais, c'est pas juste, c'est pas vrai, on boit pas comme des trous, on n'est pas bourré. D'abord, enfin bon quoi, les femmes s'y mettent. Ouais, ben voilà, tu l'avais bien cherché, hein, espèce d'alcoolique. Je suis la honte du village. Enfin bref, tout ça en russe quand même. Et voilà, alors comme ça a rien changé, le maire essaie d'arranger la santé d'un des deux alcooliques parce qu'il y en a quand même qui est sacrément ruiné. Et donc, il décide de l'envoyer dans un sanatorium pour soigner son ulcère. Ben non, rien à faire. Sa femme et la belle-mère sont persuadés qu'en fait, c'est un stratagème nouveau pour aller boire en douce au sanatorium, loin de la belle-mère et de la femme. Donc, hop, hors de question, il reste là.
Alors, donc, il va pas au sanatorium.
Non, il va pas au sanatorium. Mais c'est pas une bonne idée parce que du coup, il continue à s'arsouiller avec son pote et c'est un peu fatal quelque part.
Il rencontre pas d'autres potes pour s'arsouiller.
Non,
s'arsouille toujours avec le même.
Voilà. Il y a un éventuel nouveau pote qui pourrait arriver, mais bon, c'est pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Il y a une jeune fille dans le village qui voudrait se marier. Et là, je me souviens plus exactement comment ça se passe, mais bon, c'est encore une histoire communautaire. C'est encore un peu imprégné de soviétisme profond. Il y a un bagnard qui a été libéré et donc on décide que ça sera lui qui sera le mari et idéal. Etc., parce que froid, grand, costaud, etc. En fait, il mène une vie épouvantable au village. Et c'est très drôle, en fait, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter du film. C'est quelque chose qui m'a vachement touchée. Ça paraît complètement fou, je me souviens plus de tout ça, mais comme c'est pas une histoire en particulier, qui se passe un milliard de choses dedans, ben on se souvient de quelques petits.
Ouais, c'est presque un documentaire, quoi.
Ouais, mais drôle, drôle, et puis avec une avec un fond d'histoire derrière. Puis je te dis, cette image des deux portraits, des deux pires alcooliques, c'est la première chose qui me sort venue du film. C'est vraiment un hurler de rire, quoi. En plus, ils se font des choses dans le film.
Quand même.
À un moment, il y a une histoire de dents pourries. D'ailleurs, c'est ce qui est représenté dans l'affiche.
Ben voilà, c'est intéressant.
Et je sais plus si c'est le gendre ou je sais plus qui dans le village arrive pour soigner la dent de la nana. Enfin bref, et il la laisse suspendue sur un tabouret avec la dent accrochée au plafond, un truc comme ça. Puis il se casse. Genre, quand t'en auras marre, tu descendras du tabouret. Et ils n'arrêtent pas de se faire des petites douceurs comme ça.
C'est sympa, les Russes.
Ah, c'est sympa, ouais. C'est cool. Ouais, n'empêche qu'avec ce paquet de petites blagues, en fait, quand on regarde le fond du film, c'est quand même assez triste, parce que c'est un village au fond de la Sibérie qui est complètement oublié par tout le monde.
Mais ça n'a jamais été très gai, hein, les Russes, en plein milieu de la Sibérie.
Ouais, mais avant, tu vois, tu pouvais encore penser, croire en quelque chose. En fait, il y avait avant cette espèce d'espoir soviétique, quoi, tu sais, avec les deux meilleurs ouvriers et tout. Là, maintenant, il n'y a même plus ça, quoi. Donc, en plus, ils ont...
Ils sont tirés par le bas, quoi.
Ouais, là, pour le coup, ils ont vraiment la sensation d'être tout seuls au fond de la Sibérie, quoi. C'est ce qui est une réalité, mais avant ils ne le ressentaient pas comme ça. Et bon, si on regarde le film comme ça, ça pourrait être super triste. Et finalement, elle a su mettre beaucoup d'humour là-dedans. Et il faut dire que les Russes, ils ont quand même un sens de l'humour assez décapant et un sens de l'autodérision assez impressionnant.
Ils n'ont pas le choix.
Ah oui, ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont plus que ça.
Ah. Hein. Et tout ça, en fait, Lydia Bobrova, elle connaît vachement bien parce que elle vient de Sibérie orientale.
Ah, une intervention du public.
Il suffit de regarder le président actuel pour voir qu'ils sont très comiques.
Celui d'avant était beaucoup plus drôle.
Oui, exactement.
Ah oui, il a pris tout l'humour d'ailleurs des Russes.
Oui, il a arraché beaucoup là. Mais non, parce qu'elle fait encore.
Il a pris toute la vodka aussi.
Oui, donc je vous disais, Lydia Bobrova vient de Sibérie orientale, donc elle connaît un peu le quartier. Et très grand quartier, ouais.
Le 15e.
Ouais, le 15e. Donc elle a suivi des études d'histoire et puis finalement elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle s'est retrouvée à l'Institut expérimental de médecine et
expérimental.
Ouais, ça fait un peu peur quand on connaît les Russes. Ouais, voilà. Et alors du coup, ça l'a complètement affolée, elle a décidé qu'il était hors de question qu'elle cautionne le système. Donc elle s'est dit je vais me tourner vers le cinéma, elle attaque l'étude du scénario, elle essaie de faire des films et évidemment, vous vous en doutez un peu. Vu ce que je vous ai raconté du film, ça marche pas, quoi. C'est... Là, on lui a expliqué
bah
que...
Oui. Elle aurait mieux fait de faire Nice People et d'écrire un bouquin après, elle passerait à la télé chez nous, hein.
Voilà, parce qu'on lui a dit, non mais attends, tu peux pas raconter des trucs comme ça sur le film. En plus, on était en plein communisme. Ouais, peut-être pas... C'était pas longtemps avant la chute du mur, fallait peut-être pas en rajouter une couche, quoi. Donc, tous ces projets, ça a poireauté un peu. Puis finalement, la Russie s'est ouverte et puis elle a fait un premier film qui a pas trop mal marché. Et puis elle a fait dans ce pays-là, en fait, qui est le second. Alors la distribution, ça a pas été énorme. On le voit sur Internet, il y a pas moyen de décrocher grand quoi que ce soit. Enfin, on peut trouver des petits résumés. Alors tout le monde a le même résumé, un petit village dans le nord de la Sibérie avec des alcooliques et machin, etc. Quoi, c'est tout. Mais personne ne peut parler plus du film. Mais bon, cela dit, faut quand même reconnaître que ce film en 98 a obtenu le prix de l'État.
De l'État russe.
Le prix de l'État. C'est le prix en Russie. Le prix, il n'y a pas au-dessus. C'est comme la Palme d'Or à Cannes en France. C'est le prix de l'État. Enfin, peut-être plutôt les Césars en France, ouais, on va dire.
Et les Oscars aux États-Unis.
Et voilà, ouais. Donc, finalement, ils ont quand même reconnu beaucoup de mérite à ce film. Hein. Et on peut trouver quelques informations sur Lydia Bobrova sur russie.net. Enfin, bref, là, finalement, elle est à nouveau persona grata.
Mais donc elle marche en Russie, elle marche.
Elle marche. Je sais pas. Hein, on est qu'à trois films. On lui a proposé des scénarios d'après ce que je disais, mais bon, ça l'a branché moyen, etc. Enfin, elle préfère faire des films qui lui plaisent dans son jus. Donc au bilan.
Donc alors elle en fait pas du coup.
Elle en fait pas beaucoup. Là, elle vient de faire son troisième film.
Parce qu'il y a quand même du cinéma en Russie, parce que finalement on peut se demander, à part boire de la vodka et planter des cornichons, s'ils font quelque chose.
Il y a la mafia aussi.
Oui, non, il y a des films.
Ils
tuent les Tchétchènes.
Mais voilà, mais un cinéma pas très libre.
Oui, enfin pas très libre.
Faut
enfin,
pas trop critiquer.
Quoi. Ça dépend de ce qu'ils ont envie de raconter. Quoi. Il y a pas mal de films voilà. quand même qui parlent un peu de la mafia et tout, mais des films comme le sien qui parlent vraiment des Russes. Enfin, qui là elle vient de sortir son troisième dernier film là. Enfin bon, le dernier film pour tout de suite. Et qui s'appelle Baboussia. Celui-là, vous pouvez le voir. Hein, il est sur les écrans. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle te parlera, elle vous parlera de la Russie, mais comme personne ne le fait, quoi. Elle va chercher les petites gens. Elle, là, dans le troisième.
Le quotidien.
Film, voilà, dans le troisième film, elle parle des Russes toujours qui habitent en Sibérie parce que ça lui tient à cœur. Elle arrive, elle parle du sujet tchétchène. Elle égratigne largement les politiques, ce qui se passe.
Elle vit en Russie?
Elle vit en Russie.
Elle va avoir des problèmes.
Elle parle, ben écoute, le film, je crois, a déjà commencé à avoir un paquet de petites récompenses. Oui, non, ça.
Baboussia.
Baboussia.
Oh non, c'est très joli.
C'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est très triste, mais c'est très, très beau.
Et celui-là, on peut le voir quelque part.
Celui-là, on peut le voir. Celui-là, on peut le voir. Il est dans plein de salles.
C'est-à-dire
Partout en France
Partout en France, partout en France.
Dans les cinémas d'art et d'essai, quand même, plutôt.
Ouais, quand même, faut pas rêver. C'est pas Gaumont qui présente ça, non.
Non, mais je ne rêve pas.
Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour vous encourager à aller voir, puisque vous ne
allez
pourrez voir pas
le voir le film qu'on peut pas voir.
Non, vous ne pourrez pas voir dans ce pays-là, ou si jamais vous voyez dans une rétrospective ou n'importe quoi.
Sur Arte, voilà, à 2h du matin.
Peut-être dans qu'un de nos auditeurs québécois va le trouver.
Oui, et qui nous le dise.
Je l'engage à nous envoyer le lien de toute urgence.
Ouais, parce que ça nous ferait super plaisir.
Oui, ça lui fera super plaisir, à Flo.
Ah ouais,
oui.
Mais je ferais subir ce film à mes petits camarades. Non, c'est pas vrai. C'est drôle en plus comme film.
Non, si c'est drôle, s'ils boivent, oui, ça doit être bien.
C'est l'humour russe.
Non, c'est l'humour russe. Non, puis elle a une façon en fait de traiter un sujet qui est vraiment dramatique, mais avec légèreté. En fait, elle arrive à enlever le dramatique et ça devient beau, quoi. Et on ne peut qu'aimer ces gens-là, quoi. C'est beau.
D'accord.
Parce que là, je me souviens, dans Baboussia, il y a deux pochetrons qui s'engueulent, qui se traitent d'alcooliques, et il y en a un qui engueule l'autre. Puis, ouais, toi, t'es un vrai pochetron. Moi, quand je bois, c'est 3 jours d'affilée, et le quatrième, j'arrête et je cuve, et toi, tu bois 15 jours d'affilée.
D'accord.
Voilà, c'est bon russe. Hein.
Voilà.
Non, mais c'est russe. Hein,
oui, non, mais c'est impressionnant, hein, parce que nous, on paraît minable hein, quand on se met, enfin, ce qu'on appelle minable.
Ah oui, on est des rigolos.
Ah,
hein.
On est des rigolos, hein. c'est...
Je pense, ouais. Ils ont de l'entraînement.
Ouais, mais nous, on a Sarkozy.
Ouais, mais ils ont Poutine, alors je sais pas, finalement, peut-être
Poutine,
on va garder
ils
Sarkozy.
Ils s'en foutent peut-être.
Non, mais ils ont eu Boris.
Ah, ils ont Boris.
C'est encourageant, vu comment il est conservé. Quadruple pontage, il résiste très bien. Les Russes se disent, la vodka, tout bon.
Ah, tout
on continue.
Bah oui, ça se trouve, s'il avait pas bu, il serait mort.
Bah si ça se trouve.
Donc alors, pour conclure,
ouais, pour conclure, ben allez voir Baboussia. À défaut de pouvoir voir dans ce pays-là, allez voir Baboussia.
Ok.
Eh ben, on ira le voir, c'est promis. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à Béatrice.
On a plus d'applaudissements entre.
Ah ouais, c'est nul là. Attends,
non,
c'est
pas à chaque fois.
Parce que je parle d'un film russe,
il y a un public, c'est le public qui applaudit.
Ah bon.
Voilà, le public en liesse. Merci public. Donc Béatrice maintenant, alors qui a regardé la télé pendant un mois d'affilée là, sans s'arrêter, en buvant du vin.
Ouais.
C'était pas du vin.
Ouais. Non mais comme le thème de l'émission effectivement c'était le vin. Moi je pouvais pas faire ma chronique tellement dessus parce que déjà la publicité du vin et de l'alcool en général est interdite à la télé depuis longtemps. Et même la consommation sur les plateaux télé d'alcool, donc de vin aussi, est interdite même dans le cadre d'une dégustation. Et effectivement, bien loin le temps où dans Droit de réponse, ils pouvaient s'enfiler. Maintenant, on leur dit que c'est de l'eau, mais effectivement, discrètement, on voit bien que ça n'a pas vraiment la couleur de l'eau.
Ça n'a pas le même effet ? Non, mais sérieux, il n'y avait pas un bon Maïté ou un bon France 3 régional sur les vendanges ou quelque chose comme ça?
Maïté, il y a longtemps, il n'est plus à la télé.
Non, franchement, ils sont très, très limités là-dessus. Ils n'ont pas le droit. Ou alors, en rappelant toujours le même message, à consommer avec modération, évidemment.
On va faire un depuis nouveau message, Sarko Dupino, ça va aller vite.
Oui, de toute façon, on n'aura plus le droit de rien faire. Donc, comme je n'ai pas parlé du vin, effectivement, j'ai regardé la télé pendant pas 3 semaines, comme c'était prévu au départ, mais 1 mois. Et donc, j'ai vu plein de choses et je vais vous raconter le fruit de mon zapping. Alors déjà, pour commencer, il y a un petit moment déjà, J'ai regardé les NRJ Music Awards.
Ah,
ah, ça, si, si, formidable. Ouais. Brillamment annoncé, donc c'est sur TF1, brillamment annoncé pendant un mois par la chaîne. Il fallait bien ça, puisque les c'était aux jeunes d'élire leurs préférés dans diverses catégories, comme meilleur espoir, masculin, féminin à chaque fois, hein, meilleur groupe francophone, meilleur groupe international, meilleur interprète, etc., etc. Mais le tout choisi dans une sélection énergie. Donc je vous laisse deviner le super choix. Mais bon, c'est un choix de Jones, puisque c'était une émission de Jones, pour Jones. Et à quoi on les reconnaît ? Parce que c'est très voyant, très criard, très bruyant comme émission. C'est effectivement, oui, à ça qu'on les reconnaît, les émissions de Jones. Ouais, et moi, ce qui m'a fait aussi, non, c'est bien gueulard. Hein, je veux dire que tu baisses le son, hein, même la pub, c'est à fond la caisse, avec des choum choum.
C'est normal, les Jones, ils sont sourds.
Ben, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est à ça qu'on les reconnaît. Plus c'est criard en couleur et en son, c'est pour les Jones. Mais bon, moi, ce qui m'a le fait le plus marrer dans cette émission, c'est pas la présentation d'Anthony Kavanagh, que je trouve pourtant plutôt drôle d'habitude, mais c'est plutôt le petit concours que je me suis fait de mauvais goût vestimentaire que se sont livrées les stars féminines.
Ouais, ouais, vas-y, raconte.
And the winner is Britney Spears sur la première marche du podium.
Non, oh, sans blague.
Tu dis ça parce que
deux apparitions.
Jalouse.
Non.
Si.
Deux
si,
apparitions, si. Deux tenues aussi vulgaires l'une que l'autre.
Ah bah c'est bien ça.
Alors la première pour danser en plus, elle est venue se trémousser le popotin avec les cheveux en folie dans un corset rose et noir, moulant évidemment, et un espèce de futal collant. En sky noir, qui en plus, comme se bougeait bien, hein, ça glissait un petit peu,
oui,
laissant apparaître ses débuts de ses hanches, mais qui sont effectivement très bien faites. Donc,
c'est sûr, avec ce qu'elle doit mettre comme prix dessus.
Et après, elle est un peu plus tard, elle est revenue pour remettre un award d'honneur à son idole, Madonna, qui n'était pas très bien sapée non plus d'ailleurs. On aurait dit une campagnarde. Enfin.
C'est Jean-Paul Gaultier.
Mais comme de toute façon, oui, peut-être, c'est une espèce de robe à fleurs vertes. Non, c'était franchement pas terrible. Pas terrible.
C'est beau parce mais que c'est la collection mode de l'été prochain.
De toute façon, elle était battue par, effectivement, Britney Spears, qui là, donc du coup, s'était changée et avait une espèce de robe en cuir noir coupé de travers. Très mini.
Oui, alors ?
Bah, c'était pas beau.
Ah bon ?
Non.
Est-ce qu'on voyait sa petite culotte blanche ?
À mon avis, elle
t'as
en avait pas.
Enfin bon,
son stringe ?
C'est oui, si vous voulez des photos, il y en a dans Télébip. On n'a pas le droit de dire.
Star ?
Ouais.
On l'a pas dit en même temps.
Ok.
Il y a 7 jours
ça marche
aussi,
comme
hein.
Ça.
Donc, ensuite, elle est talonnée de Britney Spears. Elle est talonnée de très très près.
Oui.
Par Christina Aguilera, qui
normal,
de toute façon, c'est vrai, voilà, n'est de toute façon pas connue pour sa classe vestimentaire. Et donc là, fidèle
pour
à elle-même.
Son chant non plus.
Non plus, mais je te dis là, je passais.
Mais de toute façon, des nanas qui sont à 90% déshabillées, comment veux-tu qu'elles soient connues pour leur classe vestimentaire ?
Non, mais Christina Aguilera fait toujours très fort.
Elle porte très bien la feuille de vigne.
Et donc là, elle était fidèle à elle-même, parce qu'elle n'a pas gagné, mais elle est venue remettre un prix. Parce que c'était que des people aussi hein, qui remettaient les prix. Donc il fallait les présenter aussi pour présenter la sélection, pour présenter celui qui avait gagné. C'était long. Enfin bref. Donc là, fidèle à elle-même, elle avait une robe blanche, moulante et courte. Ça, normal, hein, rien d'original.
Bah oui.
Mais extrêmement très décolletée.
Ah
ouais, très ouais. Décolletée. Échancrée même,
bouton,
jusqu'au nombril.
Très.
Bah, c'était échancré jusqu'au nombril. Donc ça a fait son petit effet. Elle avait d'ailleurs pas l'air très à l'aise parce qu'en fait, hein, on voyait la moitié de ses seins, mais dans le sens longitudinal.
Ah,
alors à la radio, c'est pas
demandé,
facile à expliquer. Ouais. Donc je vous le fais à vous.
Ouais.
Donc imaginez. Donc des bretelles un peu plus larges pour couvrir la moitié du sein, dans le sens longitudinal. Mais donc un décolleté jusqu'au nombril qui baille. Ce qui fait que tu ne bouges pas. Parce que si tu te penches un peu, bah, le machin il fout le camp. Donc, elle était droite comme un piquet. Non, franchement, elle n'était pas à l'aise.
C'est-à-dire comme s'il y avait deux gants de toilette avec des boutons poupout cachés par...
Non, des bretelles, toilette, mais un peu plus larges.
Non, je parle de ses seins. Deux gants de toilette couverts
oui,
par...
Oui, mais c'est des jolies gants de toilette.
À mon avis, ouais, elle a des jolies gants de toilette, ouais. Je sais pas s'ils sont vrais.
C'est la poêle qui se moque du chaudron, là.
Je sais pas où elle
les
a achetés.
Ah, mais non, mais moi, j'ai pas de problème de ça, j'en ai pas.
Moi non plus, d'ailleurs, je pourrais mettre vraiment des vraies bretelles. Ça les cacherait. Voilà.
Oui.
Et donc,
continuez.
Bah, sur la troisième marche de mon petit classement, bah, j'ai mis Kylie Minogue. Kylie Minogue, qui est effectivement très mignonne, moi je la trouve très très mignonne.
Ouais,
mais j'ai vachement moins aimé son espèce de petit robe en foufou rose, très années 80. De toute façon, c'est vrai que c'est la mode et c'est pas ce qu'il y a de plus réussi. D'ailleurs, Ophélie Winter avait presque la même, mais en noir, donc un peu moins voyant, mais tout aussi laid.
Mais d'un autre côté, si tu veux, il y a pas très longtemps, tout cassé un mois sur un magazine que je nommerai pas, de toute façon j'ai oublié son nom. Il y avait sur la première page, enfin sur la couverture, il y avait Britney, Kylie, le duel, etc., etc. Sous-entendu, qui remportera le concours du mauvais goût et
bah,
du la blondasse.
Et ben il y avait Ophélie Winter au milieu. Mais c'est vrai que les Françaises n'étaient pas en reste. Parce que même la sage Nolwenn Leroy, donc souvenez-vous, la gagnante de la Star Academy de l'année dernière, oui, de la Star Academy 2, elle a donc gagné le award du meilleur espoir, hein, comme Jennifer l'année dernière, hein, c'est normal, hein, c'est presque d'office. Donc Élodie, prépare-toi l'année prochaine à te préparer une robe moche pour aller chercher ton award du meilleur espoir. Donc là, Nolwenn, eh ben, apparemment, elle s'est laissée convaincre par je sais pas qui, pour avoir son espèce de robe, parce qu'en plus, comme elle a gagné.
Il y a des gens qui les habillent quand même, il paraît.
Oui, oui,
non,
oui.
Mais elles sont grandes, elles s'habillent toutes seules maintenant.
Ah, c'est pour ça.
Pour l'instant, c'est plutôt Béa qui les habille.
Non, mais là, Nolwenn, c'était pas réussi, parce que comme donc elle a gagné, elle a dû aller sur la scène, et quand ils vont sur la scène, ils marchent en plus pendant un petit moment, ils sont filmés de près, et il faut escalader les trois petites marches, là, sans se casser la gueule, avec les talons aiguilles de 10 cm, sur une scène qui glisse, ça doit pas être facile. Non, je l'ai plein, franchement. Et là, elle était filmée de dos, donc c'était une espèce de robe... paillettes brillantes... Mais on avait l'impression qu'elle était à poil.
Bah c'est bien ça.
En fait c'est ça, ils leur font des robes pas possibles et après ils se bidonnent devant la télé quoi.
Ah bah c'est pour ça. Ah bah moi je marchais à Donf, hein, tu vois, j'ai vu que ça de la soirée moi, les robes moches. Parce que les garçons étaient mieux quand même. D'ailleurs...
Bah, ça a la classe. Hein.
Les garçons qui étaient en vedette pendant la soirée, c'est le groupe Kyo. Parce qu'ils ont tout raflé. Ils ont eu quatre prix.
Kyo,
c'est le chemin, c'est.
C'est quoi,
juste
le
une dernière danse.
Ah,
ils ont tout raflé. Et bientôt il y a les victoires de la musique. Ce serait pas étonnant qu'ils raflent tout aussi. C'est un groupe français qui fonctionne depuis au moins 5 ans. Parce que je les connais pas bien, mais il y a déjà eu un premier album. Mais c'est vrai qu'on les entend partout. Ça marche à donf chez les Jeunes. Et là, bah, pour une fois, moi, ça me rassure parce que au moins, c'est eux qui font leur musique. C'est pas de la soupe préfabriquée. J'étais plutôt contente pour eux. Bon, voilà. Puis ils étaient sympathiques, ils étaient rigolos. Ça changeait des robes moches. Voilà. Bon, j'ai pas regardé que les Energy Music Awards. J'ai également regardé des jeux. Des jeux à la télé. Donc je suis pas une inconditionnelle des jeux à la télé, mais bon, j'aime bien quand même les quiz de culture générale, j'aime bien essayer de répondre. Donc c'est le cas du nouveau jeu de France 2, animé par Nagui. Nagui fait son grand retour à la télé, le samedi à 7h, en access prime time, le samedi soir sur la 2. Ça s'appelle Le Coffre. L'access prime time.
Ouais, c'est de l'anglais.
Ça. Bah, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ouais. Bah oui, il faut mettre un peu d'anglais, hein. ça fait plus moderne. Donc dans ce jeu, les questions sont pas trop difficiles. En fait, le plus dur à comprendre, c'est la règle du jeu. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que Nagui perd la moitié du temps de son émission pour tenter d'expliquer toutes les subtilités des règles du jeu. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on ne peut plus poser une série de questions comme ça, simplement, hein, ce serait trop facile pour tester ses connaissances. Maintenant, il faut quand même quelques difficultés supplémentaires. Comme se faire engueuler par la présentatrice, hein, par exemple, ou être pris par le temps, ou là, bah, dans le cas présent, acheter les réponses à des négociateurs, donc contre du fric, donc il faut savoir si on va vraiment demander à l'autre s'il a la réponse, parce que ça peut coûter tant d'argent. Or, pour passer à la deuxième manche, il faut avoir bien répondu, mais il faut aussi avoir gagné de l'argent et pas en trop en avoir perdu. C'est quand même très compliqué. Donc en fait, il vaut mieux répondre. Il vaut mieux répondre pour ne rien avoir à acheter.
Non, mais ils ont bien fait de mettre ça le samedi à l'heure de l'apéro. Nous, on regarde pas comme ça.
Non, mais c'est prise de tête, hein, quand même, les règles du jeu. Hein. Mais c'est, le plus drôle, je vous dis, c'est Nagui qui tente d'expliquer tout. Perd une demi-heure.
Taratata.
autrement, il est bien. En tout cas, il y a de l'argent à gagner. Parce que de toute façon, c'est vrai que gagner un dictionnaire, c'est complètement démodé. Alors autrement, si on veut un quiz qui va vite et sans argent, ou bon, pour répondre à plein de questions, quoi, il faut un jeu qu'on connaît déjà, mais avec des people. Parce que les people, les stars, peuvent pas gagner d'argent pour eux. Ce serait quand même mal vu.
Bah oui.
Donc soit ils les donnent à une association, soit il y en a pas du tout. Et c'est par exemple le cas du jeu TF1, là, le grand concours. Présenté par cette grognasse de Carole Rousseau. Et je sais, je l'aime pas.
Ah bon.
Je la trouve nulle.
Ça c'est pas senti.
Sans humour, sans répartie. S'il y a une panne de prompteur, elle est mal. Elle est vraiment zéro. Enfin bon,
je tiens à dire que
Carole
le public
Rousseau,
se bidonne. Le public est plié de rire.
Elle est même pas belle en plus, vraiment. Mais à part ça, bon, le jeu est sympa.
Robes, ça, c'est...
Elle sait lire le prompteur. Si elle sait lire le prompteur, donc elle sait lire. C'est bien. Oh, pour travailler à TF1.
Elle est habillée, elle aussi, comme ça.
Bah, elle connaît 800 mots. À TF1, il paraît qu'il faut connaître 800 mots pour travailler à TF1. C'est déjà pas mal.
Oh, ça fait beaucoup,
ça, c'est
ouais.
Chouette.
Non, ça fait beaucoup, ouais. Faudrait dire à Arthur. Hein. Non.
C'est enfin, une moyenne. Hein.
Ah, c'est pour ça.
Il y en a qu'on connaisse moins.
Il y en a un qu'on connaît plus. Puis on connaît un paquet. Hein, pour... Enfin, bref. Donc le jeu est quand même sympa, hein. En plus cette fois-ci les invités, parce qu'ils ont fait déjà deux éditions avec tous les présentateurs de TF1, et là les invités c'était les grosses têtes, donc l'ambiance était déjà assurée, hein, heureusement, parce qu'à Carole Rousseau, enfin bon.
Donc... C'était pas Bouvard alors qui présentait?
Eh ben non, il jouait, et justement, moi pour le grand gagnant du superbe trophée, comme elle aimait bien dire, trois fois quand même elle l'a dit, hein, pour gagner ce superbe trophée. Oui, le machin en plastique, là, à mon avis, ils sont ravis. Enfin bon. Donc, moi, je pensais que le grand gagnant serait au moins parmi les plus anciens, comme Carlos, Jacques Balutin ou Philippe Bouvard. Mais c'était sans compter la deuxième manche du jeu, où en fait, il fallait faire preuve de rapidité. Parce que c'est une avalanche de questions. Il faut qu'elle pose le plus de questions possible en un temps très limité, je ne sais plus combien c'était, mais ça va très très vite. Et donc par thème. Et alors là, ben effectivement, les plus jeunes des grosses têtes, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est les plus jeunes qui ont été les plus forts, et notamment Vincent Perrault. Sur le premier questionnaire, c'était le premier. Il avait gagné une espèce de manche avant, donc il était le premier à choisir. Il a pris cinéma parce que c'est son truc. Ah bah ben là, c'est vrai qu'il a été très fort. 23 sur 25. Et en plus, pouvoir poser 25 questions alors que tout le monde n'en avait que 20. Ah non, franchement, était très fort. Et pourtant, il y en avait d'autres, comme Fabrice, qui était très motivé, qui gueulait comme pas possible. Ça, il était à fond dedans.
Fabrice, hein. le gros.
Fabrice.
Le gros, comme on avait dit une fois dans une émission déjà. Oui,
non,
celui qui parle très vite.
Il l'a dit, là, il est à la retraite, il est très content, et non, il n'a pas si gros que ça. Hein.
Mais il a peut-être maigri depuis qu'il est à la retraite.
Non, moi, la dernière fois,
il a écouté mes conseils, c'est bien.
Ça doit être pour ça, à la retraite, il a largement le temps de nous écouter.
Ça
donc
peut être
en fait,
ça.
Il a laissé la valise à quelqu'un d'autre. Et... Ah ouais. Donc par contre, ah oui, Carlos, donc, il s'est toujours pas, à mon avis, il s'est toujours pas remis de ses bourdes.
Lui aussi, il est gros. Hein.
Oui, lui par contre, en vrai. Et moi, je sais, on sait que Carlos a quand même beaucoup de culture, même si il joue au con. Mais là, il était pressé par le temps. Il s'est toujours pas remis de ses bourdes, et notamment que le soleil se couche à l'est. Si, si.
Ah ça, c'est fort.
Bah oui.
Peut-être en Russie, après un certain degré de vodka, ouais, le soleil se couche à l'est.
Ah non, mais il en était traumatisé pour tout le reste du jeu, là. Pour d'une énormité pareille. Mais bon, c'est vrai que on en dit des conneries quelquefois, surtout quand ça va vite.
Oh ben non.
Alors effectivement, des conneries, j'en ai moins entendu.
Les énormités, Carlos y connaît. Hein.
Des conneries, j'en ai moins entendu dans la spéciale Qui veut gagner des millions. spécial piège jaune. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a moins de conneries, ils ont plus de temps pour réfléchir. Ils ont carrément même trop de temps. Vous êtes un chien.
Ils ont tout le temps qu'ils veulent.
Oui, d'attendre la réponse pendant trois plombes. Mais bon, moi j'ai juste vu la fin, que j'ai vu que Pascal Légitimus n'était pas mauvais du tout. Il connaît plein de choses. Et que par contre, Titoff, rien.
C'est étonnant.
Hein ? C'est curieux. Alors le dernier jeu, non. Bah non, j'ai pas vu d'autres jeux. Donc.
J'ai pas vu le dernier jeu d'Arthur ?
J'ai pas pu.
Moi non plus.
Parce que non, mais si t'as vu tout ça avant.
C'est hyper chiant. J'ai vu que des bouts en zappant. Effectivement, le dernier jeu d'Arthur, c'est chiant pour le téléspectateur.
Ça a l'air d'être un peu le même jeu que Nagui, mais en pire.
Mais y a pas de questions.
Bah non, bah c'est trop facile les questions.
Non, c'est du deal. Et puis c'est pas un jeu à regarder. Si t'es candidat, ouais, parce que tu peux gagner du fric. Et sinon, c'est pour regarder le show à la Arthur, quoi. C'est tout. Y a rien d'intéressant à regarder. C'est méga chiant.
Non, on regardera pas alors.
Non, 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 on regardera pas. Non, à part les jeux, j'ai regardé des talk shows. Ou émissions de divertissement. Bon, celles que je regarde d'habitude ou d'autres. Alors tout le monde en parle, on ne peut pas plaire à tout le monde. Les enfants de la télé, Drucker, vivement dimanche. Le dimanche. La méthode Coé, le fabuleux destin, ou même le 20h. Hein, grande émission de divertissement qu'on connaît bien.
Sur quelle chaîne?
La 2 ou la 1, ouais.
Les deux, mon capitaine. Et qui a squatté tous ces programmes pendant le mois qui s'est écoulé, là, avec leur promotion? Je vous laisse deviner. Alors? Non, pas d'idée? Qui on peut voir?
Juppé?
Qui on a pu voir pendant... Non, non, non.
Sarkozy?
Non. Non, non, vraiment du divertissement. Il y a trois films qui sont sortis semaine... Ouais, ensuite, la semaine suivante.
Clo-Clo, podium.
Ça, c'était cette semaine. Et
au milieu... Les 11 commandements.
Voilà. Donc, effectivement, pendant un mois, on a vu partout Alain Chabat et les Robins des Bois, Michael Youn et ses acolytes, et Benoît Poulvorde.
Moi, je regarde la télé, et j'ai pas vu un seul extrait de ces trois films.
Ah ! Ah bah, je sais pas comment tu fais.
Bah, je suis super fort.
Pas les bandes annonces.
J'en sais rien comment
c'est
je fais.
C'est ahurissant. D'ailleurs, ça fait deux semaines que j'ai des chansons de Claude François dans la tête, parce que la bande annonce de Podium, je la connais par cœur. Et on a vu que pendant tout le mois, parce que c'est vrai
c'est
que
un de Julien Clerc.
Voilà, et je n'arrête pas de chanter ça.
Après, ça
exactement.
Moi, c'est tout ce que j'ai retenu.
Non, mais c'est vrai que bon, déjà, c'était trois films attendus. Parce que les films d'Alain Chabat sont toujours attendus. Podium, ça fait un an qu'on en parle.
Il y a eu le bouquin déjà.
Voilà, donc c'est attendu. Et tout ce que fait Michael Youn aussi est très attendu. Ce qui fait qu'effectivement, ils ont squatté la télé pendant un mois. Et puis même si c'est des films attendus, c'est vrai que ce sont aussi ce qu'on appelle des bons clients. Parce que à inviter des gens comme les Robins ou Michael Youn...
Benoît Poulvorde.
Et Benoît Poulvorde.
Alain Chabat, ça marche aussi.
Ouais, tout ce monde-là. C'est marrant, c'est ce que je disais. Bah justement, ce sont des bons clients. On sait que soit on va rire, soit ils vont foutre le bringue. Donc c'est vrai que.
Mais ils auraient dû sortir leur film chacun un trimestre plutôt que tous en même
temps.
Bah
là, non, là c'était à une semaine d'intervalle chacun. Et donc il y a de la place pour tout le monde. Hein. Et c'est vrai qu'en plus, ils sont souvent retrouvés sur le même plateau. Et bon bah maintenant c'est un peu la même bande à part Michael Youn, mais c'est vrai qu'ils se connaissent, ils se font marrer les uns les autres. Bon, c'est vrai que il y a des fois où effectivement c'est très amusant. Moi, j'ai vu Michael Youn à la méthode Coé. Oui, bon bah je me suis bien marré à le regarder faire ses conneries, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, on sait comment ça marche, ça peut très vite nous saouler. Et c'est vrai que effectivement quelqu'un comme Michael Youn, faut qu'il fasse attention de ne pas faire non plus toutes les émissions comme invité professionnel comme j'appelle ça, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ça lasse. Et c'est vrai que c'est le problème qu'a eu à un moment grand invité professionnel Elise Moon ou même Anthony Cavana, qui d'ailleurs n'en fait plus parce que à force de le voir partout, il a fini par lasser.
Bah, c'est pareil, Elise Moon depuis qu'il chante on ne voit plus.
Si, Elise Moon, on le voit toujours parce que c'est vrai qu'il a toujours quelque chose à vendre. Effectivement, bon, maintenant il chante, enfin il essaye. Il chante faux.
Est-ce qu'il chante?
Mais non, mais comme disait ma grand-mère, il chante mieux qu'un cheval, mais il court moins vite.
Ouais, mais bon, qu'on laisse les gens savent chanter, il nous fait rire, il continue à nous faire rire. Ce serait plus simple. Mais c'est vrai que lui, il a toujours quelque chose à vendre. Donc, en plus, des gens comme Arthur, c'est ses potes. Bon, effectivement, on les voit partout. Mais bon, il y en a d'autres, hein, Bigard. Tous ceux qui font rire, de toute façon, sont les bienvenus. Ou alors, il y en a d'autres, hein, des bons clients. J'allais dire des cartes de bons clients, parce que maintenant, effectivement, c'est Ardisson, dans son émission, qui en donne, hein, des cartes de bons clients. Il a compris le truc. Il les donne maintenant. Comme ça, les gens peuvent revenir.
Puis il y a des clients qui sont des invités permanents.
Oui, bah, si.
Voilà. Par exemple.
Ouais, bah, c'est de toute façon, c'est du copinage. Il dit soit c'est les copains, les comiques, qui sont à peu près copains avec tout le monde, soit, ou alors, on va prendre des gens qui apportent la polémique. Non, ah, maman dans le pâté.
La rillette, ouais.
Des rillettes.
T'as à 100 portes, à part, la table sur la table, et hop, une tartine de rillettes.
Non, mais.
La rillette.
Voilà, pour ce que j'ai regardé, si je vais finir quand même par un truc que j'ai vu mardi dernier sur la 6 et que j'ai bien aimé. C'est pour ça que je tenais à le souligner quand même, un truc sur la 6 que j'ai trouvé intéressant. Ça s'appelle Ma vie aux urgences, c'est un documentaire, il y en a plusieurs volets, donc il y en a encore un mardi prochain et je sais pas combien il y en a en tout. Et au départ, je me dis bon, on va regarder quand même, mais documentaire sur la 6, en fait, ils vont juste montrer, ça va pas être très intéressant et puis ça va être très superficiel. Et alors, le machin en plus, il démarre, ah, j'étais morte de rire. Gros générique à l'américaine, on se serait pas cru dans un documentaire, mais dans une série.
Dans Urgence,
donc,
quoi.
Voilà. Parce que, avec le nom des gens qu'on va voir, avec leur fonction. Alors, on suit essentiellement quand même les toubibs. Donc, un urgentiste Dr. médecine.
Green.
Un urgentiste, non, ils sont français, ils ont des noms bien français. Un urgentiste Gère. Chirurgical, le chef des urgences, un interne qui commence, premier jour de stage, en tant qu'interne. Je me mets à sa place, hein, je cote. Hein.
Oui, bien soit caméra en plus pour arranger.
Et c'est d'ailleurs, c'est lui la voix off. Il raconte un petit peu, bon là je vais là, machin et tout, et je vous présente truc. Bon, c'est filmé, mais c'est un petit peu mis à la sauce effectivement feuilleton parce que c'est vrai que bah ouais, ça marche assez bien. Et ben finalement, j'ai trouvé que c'était un regard assez intéressant parce que même s'ils font que montrer, ça montre effectivement ce que c'est les urgences. Alors j'espère quand même qu'ils n'ont pas mis non plus que l'accent sur les gros trucs bien dégueulasses, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi autre chose dans les urgences, il y a des petits trucs, donc j'espère qu'ils en montreront aussi. Et ils montraient de temps en temps des petits bouts de leur vie personnelle, mais ça, finalement je trouvais que ouais, ça pouvait montrer que l'urgentiste, même s'il travaille 14 heures par jour, il a quand même une vie, il arrive à concilier les deux, surtout que là en plus on suit beaucoup de femmes. Parce que le chef des urgences, c'est une femme. L'urgentiste de médecine, c'est une femme aussi. Et c'est des femmes qui ont du caractère, parce que effectivement, c'est une vie... elles courent tout le temps et elles ont quand même une vie familiale. Donc je regarderai les autres volets, hein, si ça vous intéresse. Finalement, c'est pas mal.
Et tu ne pourras pas...
Joconde, alors, aussi.
Tu ne pourras pas nous en parler la prochaine fois, parce que tu as carrément explosé ton temps.
Non mais la prochaine fois, bon, on m'a beaucoup coupé
bravo.
Comme d'habitude.
Oh, non,
et puis
beaucoup,
en plus, hein, j'avais dit que j'aurais le droit à du temps supplémentaire parce que normalement ça devait être dimanche.
Et tu nous as même pas parlé d'un superbe téléfilm qui est passé sur M6 il y a pas très longtemps, qui était Le Commencement du Mal.
Ah non, et pourtant j'ai failli vous parler de téléfilms à la con que j'ai vu.
Comment c'est ça, moi encore ouais.
Non, si, c'est... si, mais tu pourras le commencer, qui était un film sur la vie d'Hitler du début du
oui,
siècle
non,
jusqu'en
non, je l'ai
33,
pas vu.
34.
Mmh.
Et qui
c'était
était
pas sur la
quoi, un chef-d'œuvre absolu.
C'était sur la une.
C'était sur la une, bah oui, mais ça me. Ouais. Sur la une qui passe un truc bien, ça marchait pas bien. Ouais. Mais c'était pas mal du tout et on en parlera peut-être une prochaine fois.
Ouais.
Bah, Béa, merci beaucoup. Une salve d'applaudissements du public. Et maintenant, nous allons passer à Numa,
oui, bien parce
qui va nous parler de vin.
Oui, de vin.
Ah, quand même.
Non, un petit peu
du vin.
Voilà. Ouais, et surtout quand même.
D'ailleurs, tu vas me servir en même temps.
Oui, je peux le faire. Alors, ça va être compliqué.
Mais non, mais vas-y. Détends-toi. Voilà. Merci beaucoup.
Et moi
oui, mais si je sers tout le monde, il va y avoir des blancs.
Non, c'est du rouge.
Dans la bouteille, là.
Mais surtout que là, il n'y a plus de. Ouais.
Bah, c'est Flo qui va s'en occuper alors.
Bah, ou plutôt, on va. On va finir.
Parce que là, okay. C'est.
On va
c'est le bordel, ça fait pas pro là, tout de suite.
Ah là, ça fait. Oui. Bah, ça fait vraiment salon.
Au contraire, ça fait un peu salon de thé.
C'est vivant.
Donc, oui, donc moi, je voulais vous parler du vin chez Charles Baudelaire.
Voilà. Voilà. Tu y es déjà allé?
Oui, c'est
bonne cave.
Joli. Non, bah, oui, mais non, c'est un peu petit. J'y suis allé. C'est à Montparnasse, là,
ouais.
Au cimetière. Donc, ouais, si ouais. On cherche, c'est famille au pic. Ouais. Voilà.
C'est fermé.
Ouais, c'est un peu fermé. Ouais. Mais par contre, ça doit être bien au frais. Bon, alors, donc,
maintenant qu'on a bien ri.
Oui, maintenant. Donc, maintenant qu'on a bien ri aussi. Donc, le vin, c'est un des thèmes récurrents, un petit peu. Enfin, on le trouve dans plusieurs de ses poèmes. Donc, il y en a notamment. On le retrouve dans Les Fleurs du Mal, à travers. Donc, il y a un petit truc. Donc, on a l'âme du vin, le vin des chiffonniers, le vin de l'assassin. Alors, ça, j'adore. Peut-être que si on a le temps, je lirai tout à l'heure le vin de l'assassin. Le vin du solitaire et le vin des amants. Ensuite, on le retrouve dans le petit poème dans le Slim de Paris à travers Enivrez-vous. Voilà, ça c'est aussi, ça c'est bien. Et évidemment, du vin et du haschich, donc qu'on retrouve dans les paradis artificiels. Et tout le monde pense toujours au haschich, mais il y a aussi le vin avant, très aussi, important.
Il voilà. Aime bien les substances.
Voilà. Et aussi, on le retrouve, mais ça je l'ai découvert, parce que des fois je découvre des trucs, dans le théâtre à travers une petite pièce qui s'appelle L'Ivrogne.
Il a écrit des.
Non, ça a pas marché.
Ah oui.
Mais il a failli, hein. mais raté. Voilà. Alors donc, ce qu'on voit. Alors je sais même plus comment je voulais commencer en fait. Alors, j'ai
prendre le début feuilles, peut-être.
Relis. Le début.
Non, je vais prendre mon micro à la main. Ça ira beaucoup plus facile. Alors.
Attends, j'ai enlevé un peu. Il y a des fils partout là. Il va y avoir un accident après. Vas-y.
Oui, mais c'est bon là. J'ai
vas-y,
fait
t'es à l'aise maintenant.
J'ai fait qu'une 49, donc c'est ouais. Bon. Donc là j'ai 24 à faire là. J'ai 24 minutes à faire, donc il va falloir meubler là. Ouh là là. Ouais, alors je sais plus, non ça je sais, on l'a déjà dit ça, parce qu'on m'a fait faire des digressions, alors après forcément je rattrape des trucs. Alors donc ce qu'on pourrait dire déjà, c'est que de quoi Baudelaire il parle quand il parle du vin, quel vin, de quel vin il parle, parce que il y a le vin.
Le bon et le pas bon.
Voilà. Voilà. Donc, il y a jamais le critère de moralité où on pourrait se dire le vin qu'il faut pas boire. Parce que c'est pas bien, ça rend les gens violents, agressifs ou je sais pas quoi. Même dans le vin de l'assassin où le mec il tue sa femme quand même. C'est un ivrogne.
C'est pas bien.
Mais en fin de compte, le fait qu'ils boivent, ça passe en arrière-plan.
C'est pas pour ça qu'il tue sa femme.
Non, c'est pas pour ça. Alors, en fait, s'ils s'en débarrassent, visiblement, c'est pour des raisons qu'elle l'emmerde et qu'il l'aime.
Oui, voilà. Non, mais c'est très classique jusque-là.
C'est classique, voilà.
C'est un classique Baudelaire.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi donc dans Enivrez-vous, avec la petite ritournelle qui revient toujours, c'est Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Donc là, après, là, je vais continuer ça, puis après je vous expliquerai pourquoi. Par exemple, dans le chiffonnier, qui boit, lui, il se voit à la tête d'une armée, roi d'un pays, il va faire plein de lois très bien. Donc là, c'est
positif.
Oui, c'est positif. Dans Du vin et du hachis, le guitariste, c'est à ce moment-là qu'il fait la meilleure musique. C'est quand il a bu.
Voilà. C'est positif.
Voilà. Le vin rend bon et sociable.
C'est la muse.
Voilà. Le vin rend bon et sociable. Pour Baudelaire, évidemment. Donc, non, c'était important parce que on aurait très bien pu voir un autre truc, comme actuellement dans les campagnes publicitaires. C'est pas ça qui est dit.
Et il dit jamais du mal.
Non.
Parce qu'il met souvent en opposition, justement.
Non. Le vin est profondément humain et j'oserais presque dire comme homme d'action.
Ah ouais.
Quand même, il dit jamais du mal, comme on aurait pu voir par exemple à peu près la même époque chez Émile Zola dans L'Assommoir.
Oui.
Le vin, c'est pas terrible. Mais non. Alors donc là, on pourrait peut-être penser que c'est parce que ce sont des poèmes de jeunesse. Dans les premiers ces poèmes-là, c'est des poèmes de jeunesse. Mais après, comme il les reprend plus tard. Les poèmes, notamment dans la pièce de théâtre L'Ivrogne qu'il a fait, en fin de compte c'est Le vin et l'assassin, et qu'il a retravaillé, mais il le reprend plus tard et il change pas son point de vue. Alors donc visiblement dans sa jeunesse, en fin de compte, il avait rencontré il fréquentait beaucoup d'amis socialistes, et c'était les idées de l'époque en fait qu'il reprend là.
Ouais.
Donc le vin comme lien social. Fort.
Mais il a pas tort.
Ah ben bah non, mais non.
Bah, tout à fait.
Voilà.
On s'aime beaucoup quand on est sous l'emprise du vin. Mmh. Tout le monde s'aime.
Voilà. Donc.
Beaucoup autour de cette table.
Voilà. Donc le nom que là j'ai renoté. Donc le vin qu'il évoque est abstrait en fait, parce qu'il décrit jamais le vin. Il parle du vin au sens général. C'est-à-dire, il va pas parler de la couleur du vin, il va pas parler de l'odeur du vin, il va pas parler des sensations qu'on peut avoir avec le vin. Il parle du vin.
Oui, un peu comme une identité, quelque chose.
C'est l'idée du vin. Alors c'est un petit peu paradoxal, étant donné les.
C'est moins poétique.
Quand on connaît un petit peu Baudelaire, comme on revient souvent dans sa poésie, le parfum. Donc il aurait très bien pu parler des parfums du vin. Ouais. Eh ben non. Ouais. Eh ben non, il le fait pas.
Alors il parle de quoi? Du vin. Quand il parle du vin.
Eh ben il parle du vin.
Et des effets du vin.
L'idée du vin.
Le vin et les gens.
Oui, ce que ça représente, effectivement, comme.
Voilà, mais pas du produit.
C'est plus un concept philosophique qu'un breuvage.
Voilà, pour lui.
De boire un verre entre amis, en fait.
Oui, et parce que visiblement, il buvait pas. Hein. Pas beaucoup.
Ah bon, je croyais qu'il était.
Pas
non, mais c'est des souvenirs lointains de la première.
Non, de même qu'il prenait pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Des drogues.
Non, il en a pris. Bon, il en a pris, évidemment, il a pris du hashish pour.
En confiture. En confiture, il l'a pris.
Pour goûter, mais.
Oui, ça peut être pire.
Très peu. Et le vin, il en buvait, mais tout à fait raisonnablement.
Avec modération.
Comme nous.
Je sais pas. Bah oui, comme nous.
Ouais, mais faut dire qu'on est allé à une époque où il vaut peut-être mieux boire du vin que de l'eau, quoi. Au moins le vin, tu sais qu'il est convenable. La flotte, tu sais pas ce que tu vas trouver dedans.
Oui, mais lui, il en boit vraiment.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, si tu veux, si tu bois de l'eau pour attraper un choléra, autant boire du vin légèrement, quoi.
Oui, voilà. Donc le vin pour Baudelaire, c'est pas un des plaisirs de la vie en fait. Il le décrit pas comme ça. C'est bizarre, hein.
C'est étonnant, peut-être plus les effets.
Non, non,
le rôle social.
Le rôle social comme évasion chez les classes, chez les basses classes, quoi.
Comme un concept.
Voilà. C'est
comme
un concept, et une observation.
Une observation, et ça revient donc surtout quand il fait des recherches sur l'évasion. En fait, c'est ce qu'il cherche. Il finit à la fin de sa vie sur la mort, quoi. Donc, c'est toujours l'évasion. Mais avant, donc il y a le vin. Il y en a d'autres, de toute façon. Mais il faudrait que je mette la main dessus.
On va dire que c'est ça.
Le voyage, la mort, la vertu,
dans
etc.
Les paradis artificiels, notamment.
Oui, voilà. Le rêve, ben voilà, c'est là. Donc à travers, par exemple, l'érotisme qu'on voit, donc la révolte, c'est ce qu'on retrouve chez lui. Le rêve, c'est toujours l'évasion, le vin, etc. Formidable, non? Hop là, voilà. C'est pas mal, hein?
Ah oui.
Non, j'ai fait ça cet après-midi. Hein. Enfin non, j'ai triché. Hein.
J'ai peut-être copié ça cet après-midi.
T'as lu tout Baudelaire cet après-midi?
Non, j'ai juste lu ce qui concernait le vin. voilà. Ben voilà, donc là on va pas en dire plus là-dessus, on va passer aux choses intéressantes. C'est-à-dire que moi je voulais lire le vin et l'assassin en fait.
Ah bah vas-y, dis le vin et l'assassin.
Ouais,
merci Flo.
Donc c'est un bouquin, c'est un spécial sur le vin.
Voilà, c'est l'œuvre complète de Baudelaire.
Ah, donc il y a tous les spéciales sur le vin et les spéciales de tout sur Baudelaire.
Voilà, il y a les spéciales de tout sur il y a tout.
D'accord.
Enfin il y a pas toutes les lettres à sa mère quand il lui réclame du pognon.
Pourtant, c'est.
Pourtant, il en a fait beaucoup. Hein.
Ouais.
Et c'était bien écrit aussi.
Ah, c'était aussi. Ouais. J'en ai lu un petit peu. C'est très bien écrit, mais bon, c'est bon.
Ah ouais, non, il y a tout un
paquet. Le motif est un petit peu.
Non, mais il y a un paquet de petites lettres et tout. Se faire insulter par Baudelaire, c'est un plaisir.
Ah non, ouais, il fait ça très bien.
Mais maintenant, ça va pas être facile.
Ouais,
bon.
Maintenant.
Le vin et l'assassin, alors. Ah.
Tu veux une petite musique de fond?
Non, ça va aller.
Non,
je sais pas.
Bon, non, non, mais vas-y.
Ma femme est morte, je suis libre. Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ses cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits, et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme en beau temps de notre ivresse, j'implorais d'elle un rendez-vous. Le soir, sur une route obscure, elle y vint, folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop, voilà pourquoi je lui dis, sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ces nuits morbides à faire du vin à linceul ? Cette crapule, invulnérable comme les machines de fer, jamais, ni l'été, ni l'hiver, n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaînes et d'ossements. Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort. Alors, sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue. Le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque, comme de Dieu, du diable ou de la sainte table.
Bravo.
Mais c'est pas
bravo.
Facile. Hein.
Voilà. Bravo. Donc,
ben non, on va passer à mon poème.
Hein. Attends, attends. Pour digresser un peu, tout à l'heure, tu parlais de Baudelaire, l'évasion, etc., etc.
Oui.
Et là, en fait, sur la page à laquelle on est arrivé, ça me rappelle qu'effectivement, et ce qui me, ça me confirme un souvenir. Il y a dans les poèmes de Baudelaire le vin des amants. Et si tu vas vers plus loin dans les fleurs du mal, tu as aussi la mort des amants.
Oui.
Ben qui est comme une suite du poème.
En fin de compte, le thème qui revient toujours, c'est la fuite, en fait.
Oui, mais de toute façon, c'est vrai qu'il avait toujours les mêmes thèmes. Et...
Oui, mais comme beaucoup, non,
moi,
de toute façon, voilà.
Qui revient à travers.
Je conseillerais Baudelaire à tous ceux qui peut-être aimeraient s'intéresser à la poésie. Il y a des choses qui sont très
non,
très
ludiques, bien.
Très simples, notamment dans le Spleen de Paris, qui sont des poèmes qui sont entre le poème et la nouvelle,
et en prose, voilà,
et qui suffisent eux-mêmes sans chercher forcément à aller très très loin. Qui c'est très agréable à lire,
aussi,
pas forcément
c'est...
à lire d'une seule traite, mais posé sur la table de chevet, on lira le soir avant de s'endormir. C'est toujours très agréable.
Non, c'est vrai que c'est bien, mais c'est bien c'est aussi quand il y a une explication derrière. Parce que moi j'ai quand même découvert, ça m'attirait pas du tout.
Oui, nous aussi, on a
et
découvert.
En première, parce que le prof était bien aussi.
Dans le placard.
Et j'avais trouvé intéressant. Mais parce que le prof était bien, mais ça doit être toujours au programme de première d'ailleurs.
Première, c'est très fort au programme de
non,
première.
Non, maintenant ils sont beaucoup plus doués, c'est en troisième.
Bah, ce serait bien.
Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Oui. Si on pouvait nous envoyer des informations sur les programmes littéraires.
Le programme de troisième.
Je sais pas, en troisième, merci. Moi j'ai fait le CID. Je me suis fait chier.
Moi j'avais fait Thalès. Mais en poésie c'est pas terrible.
En poésie c'est pas super.
Non, non mais c'est plus court. Je l'apprends par cœur.
C'est plus bref.
Donc alors maintenant après Baudelaire, Numa.
Ah oui. C'est
sans
pas
transition.
Pareil.
Allez,
ah,
hop. Bah,
allez hop. Allez hop. Alors Rouquin, Jaja, Pinard, Petit Bleu, Godet, Timbal, Petit Coup, Topette, Vinas, Beaujol, Vin de Chasse, Pif. On t'aime ou pas, moi oui. Vin délicat, gobelet plastique, vin qui pique, verre baccarat. On te sirote, on te déguste, on te renifle, on te mire, on t'aime ou pas, moi oui.
Bravo.
Bravo.
Bravo, bah toi tu vas avoir droit à de vrais applaudissements. De la foule en délire.
Le public s'est multiplié.
Bon, ça suffit maintenant, le public. Hein. Oh,
non, merci,
c'est,
merci,
on,
merci,
y a plus moyen d'en placer une maintenant.
Ouais, on peut plus rien dire là. Ben voilà.
Voilà,
ouais,
alors, c'était ta
proverbe. Ah, mais non, j'ai un proverbe. Quand t'as tout bu, il n'y a plus rien à boire.
Et c'est plein de bon sens.
Ah,
ben
oui.
Oui.
Mais là, on n'a pas tout bu.
Ah, ben non. Non,
bon, bah alors.
Il reste à boire.
Oui, bah oui. Non, mais c'est un proverbe. Hein.
C'est un proverbe. C'est pas un fait.
Voilà, j'avais aussi Vive le 20 et le 19 aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, nous sommes le 12.
Bah
jeudi
oui.
12. Demain, c'est vendredi 13.
Oui, et c'est ma fête.
C'est la Saint-Béatrice.
Bonne fête.
Ah, et ça se fête la veille.
Bah voilà, oui, hein, allez-y.
Sainte Béatrice dans son fauteuil d'Emmanuel.
Et le public s'appelle Béatrice aussi.
Béatrice aussi.
Le public. Oh bah,
et bah rien que pour nous,
bah
demain, il y a
fête,
une super
hein.
cagnotte du loto.
Et voilà,
mais c'est pour la Sainte Béatrice.
Ça sera le thème pour créer. J'ai commencé à jouer au loto, ouais.
Oui.
Ah, mais justement, c'est le loto européen. À partir de demain, c'est Euromillion, là. C'est avec l'Angleterre et l'Espagne en même temps. C'est regroupé.
Ah, c'est pour ça. Mais j'avais pas compris. Je crois que c'était un nouveau jeu. J'ai pas bien compris.
Non,
non.
C'est
non,
la pub.
Des livres.
Des livres de quoi?
Sterling.
Ah, ouais, c'est bien ça.
Et d'ailleurs, je sais pas comment ils font les Anglais parce que c'est un euro. Enfin, bref.
Bah, ils débrouilleront. Hein, ils ont l'habitude.
Ah, ils démerdent.
Donc bah voilà, c'est fini. Donc on va remercier le public.
Déjà,
ouais,
hein,
merci,
hein. C'est déjà fini. Merci,
bah oui,
merci.
J'ai oublié personne. Tout le monde a parlé.
Tout le monde a parlé.
Hein, c'est fini. On va. Toujours,
à part le chat.
À part le chat, oui, mais il veut rien dire.
Il s'est planqué, il en a marre, le chat.
Donc on va encore remercier Yann Beaujouan qui nous a fait les petits jingles. Et on va dire au revoir. Au revoir tout le monde.
Et bah, au revoir.
Au revoir alors. À bientôt, la prochaine dans.
Dans qu'on aura le temps.
Plutôt à ce moment-là.
En mars. Au revoir.
Au revoir. Salut.